Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, Chéribin Okende sera inhumé demain mercredi 20 mars, 8 mois après sa mort, selon le programme des obsèques publié par sa famille biologique et politique. Les obsèques de l'ancien ministre des Transports et député national se feront sans hommage officiel d'après le programme, mais un stand pour République s'attend aux derniers hommages qui lui seront rendus par ses députés et cadres du parti. Au Nord Kivu, la MONUSCO a facilité ce mardi l'évacuation de 70 ex-combattants et leurs dépendants vers Beni. C'est en perspective de leur réinsertion communautaire dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. L'invité de ce journal est le chargé de la technique de la Commission nationale de prévention routière dans le Haut-Katanga. Lia Balimwacha parle des accidents de circulation sur les routes des grandes villes de la province du Haut-Katanga. Merci d'être avec nous et bienvenue à l'écoute de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 8 mois après sa mort, Chéribin Okende, l'ancien ministre des Transports et député national, sera inhumé demain mercredi 20 mars selon le programme des obsèques publié par sa famille biologique et politique Ensemble pour la République. Ce mardi, à partir de 19h, sera observée une veillée mortuaire en la salle Ave Maria, ponctuée par une messe avant d'autres cérémonies prévues demain à l'hôpital du Cinquantenaire et à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Sans hommage officiel d'après le programme, mais Ensemble pour la République s'attend aux derniers hommages qui lui seront rendus par ses députés et cadres du parti. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette tragédie? Rappel des faits avec Jeff Ngoy.
La mauvaise nouvelle est tombée le 13 juillet 2023. La justice annonce le corps sans vie de Chéribin Okende retrouvé seul dans sa Jeep sur l'avenue des Poids Lourds à Kingabwa. Quelques heures plus tard, la justice convoque la presse et parle d'une mort par balle dont les circonstances devraient être élucidées par des enquêtes. Sa famille politique et biologique exige une enquête internationale. Le gouvernement adhère à l'idée d'une enquête mixte. Des enquêteurs sud-africains, belges, BCNUDH et médecins légistes congolais constituent cette équipe d'enquête. Le 29 mars, le parquet général près la cour de cassation communique à la presse les résultats de ces investigations qui convergent sur un suicide. Une conclusion qui ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique. Selon le parquet, il s'agit d'une conclusion des experts internationaux et nationaux ayant consisté notamment en balistique, toxicologie, autopsie. Le 4 mars, la famille du défunt est invitée par la justice à réceptionner les 10 rapports et d'en prendre connaissance et, au besoin, faire des observations. La famille tergiverse, mais la justice lui fait parvenir ses rapports. Plus rien ne suit.
Moi, je suis heureux chaque fois qu'un journaliste sort des griffes de la justice. C'est en ces termes qu'a réagi le président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC Kinshasa, à la condamnation à 6 mois de servitude pénale du journaliste Stanley Boudjakera. Jean-Marie Kassamba intervenait dans l'émission Parole aux auditeurs de ce mardi à la radio Kapi. À cette occasion, il a soutenu que Stanley Boudjakera n'est pas coupable de tout ce qu'on lui reproche. On écoute Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, dans cet extrait sélectionné par Guy Maté.
Nous avons mené un combat, celui de protéger et surtout de prémunir la presse de beaucoup de privations. Le cas de Stanley Boudjakera, c'est un cas, on va dire, significatif par rapport à l'exercice de notre métier ici dans notre pays. Aujourd'hui, Stanley va recouvrir sa liberté. Nous continuons à dire qu'il n'est pas du tout coupable de tout ce qu'on lui reproche parce que nous savons effectivement que Stanley n'est pas l'auteur de tout cela. Mais n'empêche, je dois dire aujourd'hui merci, en commençant par le chef de l'État qui nous a écoutés. Bien évidemment, il n'est pas interféré dans les histoires de la justice, mais comme garant du bon fonctionnement des institutions et père de la nation, il a pu mettre son nez, comme il le disait lui-même, dans cette affaire qui gênait tout le monde. Le plus important pour nous est que Stanley est libre.
Et pour nous, c'est une décision de justice. On ne doit pas se battre contre la justice. Propos d'Adelard Oboul Okwes, qui intervenait également dans l'émission Parole aux auditeurs de ce mardi sur Radio Okapi. Ce professionnel des médias, expert dans le secteur des médias et enseignant des sciences de la communication à l'IFASIC, estime cependant que ça ne devrait pas se passer comme ça s'est passé, parce que pour lui, toutes les organisations professionnelles attendaient l'acquittement. On écoute Adelard Oboul Okwes dans cet extrait proposé par Guy Maté.
Le dernier rapport qui avait été publié montrait qu'effectivement, il était difficile de pouvoir établir que c'est Boujakera qui était l'auteur de ce texte ou qu'il avait fabriqué quelque chose. C'était difficile de l'établir parce que jusque-là, aucune contre-expertise ou aucune expertise n'avait établi ces faits-là. Et donc, on constate, nous tous, que malgré que ces faits n'ont pas été établis, il a quand même été condamné. Alors, deux sentiments. D'abord, je me dis que ça en était trop. Ça faisait 6 mois que Boujakera ne faisait plus son travail. Et bon, déjà, le fait qu'il puisse sortir, pour moi, c'est bon parce que on veut bien aider les amis, on veut bien défendre les journalistes, mais ils doivent pas être en prison parce que sa place n'est pas en prison. Et donc, pour moi, le fait déjà qu'il sorte aujourd'hui ou demain, c'est très bien. Maintenant, par rapport à la condamnation, peut-être qu'il arrivera un moment où on devrait chercher à ce qu'on puisse rectifier, qu'on puisse vraiment l'acquitter. Parce que là, on ne voit pas des raisons pour lesquelles on devrait pouvoir le condamner pour des fautes qui n'ont pas été prouvées.
Et pour rappel, Stanny Boujakera, directeur des publications adjoint de l'actualité.cd et correspondant des Jeunes Afriques, avait été arrêté le 8 septembre 2023 et détenu pour l'infraction présumée de propagation de faux bruits sur le dossier de la mort de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et député national. Au Nord Kivu, la MONUSCO a facilité ce mardi l'évacuation des 70 ex-combattants et leurs dépendants vers Beni. C'est en perspective de leur insertion communautaire dans le cadre du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Ces derniers font partie des 1500 ex-combattants qui étaient cantonnés à Moubambiro jusqu'à fin 2022. Un reportage de Bernard Nyangui.
Après plus de 5 ans d'attente, ces ex-combattants sont désormais contents de retourner dans leur milieu d'origine. Témoignage.
Je suis contente de retourner à la maison car ici nous vivions comme des réfugiés.
Cela fait presque 5 ans, nous étions à Moubambiro. Mais à la suite des attaques du M23, nous nous sommes retrouvés dans le camp des déplacés de Mugunga où nous avons vécu trop de difficultés.
Un projet de réinsertion financé en territoire de Beni et Lubero par le Fonds de cohérence pour la stabilisation des Nations Unies accueille ses ex-combattants, se réjouit Clovis Mounire, coordonnateur provincial du PDDRCS.
Ils étaient au nombre de 1500. Il y a presque 200 ex-combattants qui avaient identifié comme leur zone de retour Beni et Lubero. Une grande partie sera prise en charge par le projet OIM. Notre partie sera prise en charge par le projet Mudamani déjà lancé dans les Lubero.
Il s'agit ici de la deuxième vague d'ex-combattants venant de Goma à arriver à Beni sous la facilitation des vols de la MONUSCO. Ce, après les 13 premiers transférés le 7 mars dernier. La section DD3R de la MONUSCO parlait d'environ 136 autres ex-combattants du Grand Nord et leurs dépendants qui attendent cette opération. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Et toujours au Nord Kivu, l'occupation prolongée d'une zone par les rebelles peut obliger les habitants à se joindre à leur mouvement, parfois par nécessité pour survivre. L'alerte est du fonctionnaire délégué du gouverneur de province à Bambo, dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, qui déplore la campagne menée par les rebelles du M23 auprès des jeunes. Ces derniers leur promettent notamment des emplois dans les sites miniers. Isaac Kibira demande aux jeunes de ne pas tomber dans ce piège, tout en appelant le gouvernement à prendre parallèlement des mesures concrètes pour protéger les populations sous occupation rebelle, surtout que l'occupation perdure. Isaac Kibira a été joint par Rosalie Zawadi.
Nous venons de constater toute la semaine passée, les cadres de M23 sont en train de circuler dans les grandes agglomérations comme Vichumbi, Kibirizi, Bwalanda, Kikuku et Nyanzale, en train de persuader la population de s'arranger derrière ces jalas. Nous demandons aux jeunes d'être très prudents parce que adhérer à ces mouvements, c'est adhérer à un mouvement insurrectionnel. C'est un mouvement qui a massacré la population au niveau de Chichiche, au niveau de Bambumburamazi, au niveau de Tongo, Bungushu, au niveau de Bishusha, au niveau de Bukombo, Rubona. Si ce mouvement perdurait dans la zone, alors il risquerait d'avoir un mouvement d'adhésion. Alors avec cette adhésion, ça risque d'être un danger pour la nation. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en tout cas de fournir beaucoup d'efforts pour trouver une solution le plus tôt possible. Sinon, en tout cas, l'air est grave. Nous craignons comme quoi ce mouvement risquerait de trouver des adeptes si on ne cherchait pas une solution le plus tôt possible.
Cette alerte met en lumière les dangers de l'occupation rebelle sur les populations civiles. La situation est particulièrement grave pour les jeunes qui sont les plus exposés à la manipulation. En Ituri, pendant ce temps, 4 morts et plusieurs blessés, dont un enfant de moins de 10 ans. C'est le bilan provisoire d'une incursion hier lundi du groupe armé d'autodéfense Zaïr dans le village Lidjoba, groupement Gobi au secteur Walendoutassi dans les territoires de Djougou. Selon les sources sécuritaires, cette attaque est en représailles des violences de la Codeco de samedi dernier dans les localités de Café, Soba et Nyamamba sur le littoral du lac Albert. Cette attaque avait entraîné la mort de 6 personnes, dont 3 éléments du groupe armé Zaïr. La société civile locale demande l'implication de l'État pour protéger la vie des civils innocents. Des détails avec Marcel Kizabiamungu.
Une vingtaine d'éléments du groupe armé d'autodéfense Zaïr à provenance de Bloukoua, chef-lieu de la chefferie de Baïma Nord, s'est introduit au village de Lidjoba à 7 km de Bloukoua la nuit de lundi à mardi en tirant plusieurs coups de balles, ce qui a créé une psychose au sein de la population. Selon des sources sécuritaires, dans cette confusion, 4 personnes, dont 3 femmes et un enfant, sont morts. 4 autres civils ont été grièvement blessés et leurs vies sont en danger, explique le responsable de la société civile locale. Désiré Gouga demande au FRDC et à la MONUSCO de déployer leurs éléments dans cette zone pour protéger la population contre des attaques de la milice Zaïr. Il plaide également à la mission onusienne de faciliter l'évacuation des blessés à Bounia pour les soins appropriés.
Nous demandons au gouvernement, avec nos militaires qui sont sur terrain, de barricader la route aux ennemis de la paix en valetant. Il y a un enfant qui risque de rendre son âme. On a interpellé la MONUSCO, la FRDC au courant.
Entre-temps, dans la même région, les 22 personnes, dont 7 femmes, prises en otage par la Codeco samedi dernier à Gbavi et Los Andrema sur le littoral du lac Albert, continuent à être détenues par les ravisseurs à Peigny et Saliboko dans les secteurs de Walendoutati. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, l'office des routes amorce les travaux de construction de 4 ponts sur la route nationale numéro 5 dans la plaine de la Ruzizi. Le gouvernement central vient de disponibiliser les moyens nécessaires pour ces travaux. Une réponse au plaidoyer des usagers de la RN5 sur le délabrement très avancé des ponts entre la ville de Bukavu et celle de Baraka en territoire de Fizi. Emmanuel Elamejua Kamedi est en ligne de Bukavu.
C'est la direction générale du Fonds national d'entretien routier FONER qui finance la construction de ces 4 ponts dans la plaine de la Ruzizi sur la RN5. C'est notamment les ponts Kakenge, Sangé, Kavuguvugu et Bikamba. Le directeur provincial intérimaire de l'Office de route Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mugangu.
Nous vous informons que nous avons déjà reçu les moyens maintenant pour commencer 4 grands projets de ponts. Des ponts qui ont fait souffrir les usagers. Heureusement, nous remercions les efforts du gouvernement parce qu'il ne s'est pas lassé au vu des problèmes qu'il y a sur la RN5. Et il nous a donné les moyens pour démarrer les travaux à Sangé, à Kavuguvugu, à Bikamba, mais également à Kakenge. Nous avons déjà commencé les travaux de démolition.
Alain Mugangu a effectué une visite sur cette route allant de Bukavu jusqu'à Baraka à Fizi, en passant par les escarpements de Ngomo. Il était accompagné d'un responsable du bureau technique de contrôle BTC et ceux du FONER. L'office de route est à l'étape d'installation et approvisionnement de chantier en prélude du lancement de ces travaux. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Dans la province de Lomami, signature le week-end dernier à Kabinda du contrat de partenariat pour le forage des 10 puits d'eau. Ce contrat a été signé entre le gouvernement provincial et la société Agro Mwinda Business. Ce projet, dénommé Eau pour tous, a pour but de garantir l'accès à toute la population aux services d'eau potable. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le directeur général de la société Agro Mwinda Business a indiqué lors de la cérémonie consacrée à la signature de ce contrat de partenariat que ce projet consiste à forer des puits d'eau dans les 5 territoires que compte la province de Lomami et aussi dans les 2 villes. Ces 100 puits auront des bornes fontaines disposant des robinets et un système digitalisé pour la gestion financière des eaux. Il est indiqué toujours dans le cadre de ce partenariat public-privé que les travaux seront financés à 100% par la plateforme Agro Mwinda Business. Quelques acteurs de la société civile de la province de Lomami saluent ce projet qui vient résoudre les problèmes de carence d'eau dans cette province. À titre illustratif, la ville de Kabinda, avec près de 50 000 habitants, son centre secondaire de la régie des eaux compte que 46 bornes fontaines. La cité de Lubao, dans le territoire du même nom, les habitants s'approvisionnent en eau au forage appartenant à 2 acteurs politiques. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le nombre de personnes touchées par la violence au Soudan du Sud a augmenté de 35% au cours des trois derniers mois de 2023, selon les Nations Unies. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a documenté 233 incidents de violence affectant 862 personnes. Le gouvernement britannique espère qu'un dernier effort permettra de relancer son projet d'expulsion de certains demandeurs d'asile vers le Rwanda. Un projet de loi visant à surmonter le blocage de la Cour suprême du Royaume-Uni sur les vols d'expulsion est retourné à la Chambre des communes hier lundi et pourrait être adopté dans les jours à venir.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chargé de la technique de la Commission nationale de prévention routière dans les Haut-Katanga. Lia Balimwacha parle des cas d'accidents sous les grandes villes du Haut-Katanga qui ont causé la mort de plusieurs personnes. Il s'entretient à Lubumbashi avec Jean Gandou.
Lia Balimwacha, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
Qu'est-ce qui explique les nombres croissants des accidents de la circulation à travers la ville de Lubumbashi et ses environs?
Nous avons connu une année 2023 qui avait beaucoup de turbulences et surtout d'ordre électoral. Alors, il y a eu beaucoup de délinquances routières. Les services aussi se sont beaucoup réservés pour éviter qu'il n'y ait pas des soulèvements de la population. Cette attitude-là a fait que à Lubumbashi, en 2022, on avait 1180 cas d'accidents, 142 tués. En 2023, on a eu 1248 accidents, 154 tués. Et parmi aussi les causes, il y avait aussi les excès de vitesse, des fausses manœuvres, l'imprudence aussi au volant, les non-respect des règles de circulation par certains conducteurs, le non-respect du code de la route, la signalisation n'est pas tellement respectée ici chez nous.
À qui la faute?
Les gens qui conduisent, ils ne sont pas passés par l'auto-école. Ils ont appris seulement à déplacer les véhicules, mais ils n'ont pas appris la conduite pour avoir des règles de circulation et savoir interpréter la signalisation. C'est pourquoi l'État a prévu un recyclage pour renforcer les capacités de tous les gens-là qui conduisent ou bien sans passer par l'auto-école. Vous allez constater aussi que sur nos routes, les conducteurs ne sentent pas l'autorité de l'État. Hein. La sanction est faible. Nous sommes en train de faire beaucoup de complaisance envers les usagers de la route.
Mais alors, pourquoi faites-vous la complaisance?
Quand seulement vous mettez la main sur un véhicule, c'est les téléphones qui sonnent partout. Laissez ces véhicules-là, c'est pour tel. Ça amène un peu une fragilité au niveau de la sécurité routière. Parce que la sécurité routière se renforce par la formation et par les sanctions sur les routes nationales. De Sakania à Kolwezi, aucun poste de contrôle. Les excès de vitesse nous demandent, nous, en tant que SNPR, de mettre le poste de contrôle de détection de vitesse avec radar. Et quand nous mettons ces postes-là de contrôle, tout le monde crie à la tracasserie.
Où sont partis les caméras que vous aviez? Pourquoi vous n'utilisez plus les alcotests?
Nous les avons ici. Même les alcotests, nous les avons. En 2022, nous avons eu baisse des taux d'accident par rapport à 2021 parce que en 2022, on avait fait des contrôles de vitesse sur les routes nationales, mais qui n'ont pas pris beaucoup de temps parce qu'on a décrié que c'est une tracasserie. On nous a demandé d'arrêter. Et nous avons arrêté et nous continuons à faire le plaidoyer pour que cette activité-là soit une activité de routine.
Et ici à Lubumbashi, depuis le début de l'année, il y a eu combien de cas d'accidents?
Au mois de janvier, nous avons connu 95 cas d'accidents, 10 décès. Et le mois de février, on a eu 89 cas d'accidents, 13 décès.
Que faudra-t-il faire pour que les cas d'accidents tels que nous les voyons soient réduits?
Nous devons travailler sur l'homme, parce que c'est l'homme qui est à la base des accidents de circulation, beaucoup d'ailleurs. L'ivresse au volant, c'est l'homme. L'excès de vitesse, c'est l'homme. Cet homme-là, pour le travailler, il faut le former. Il faut renforcer la sensibilisation. Il faut aussi renforcer l'éducation. Nous ne devons pas lutter contre les accidents si nous n'avons pas de bonnes infrastructures routières. Nos routes ne répondent plus aux standards internationaux parce que nous avons maintenant des routes qui sont devenues très étroites. Même si ce sont des routes qui ont deux voies, ce sont les deux voies qui ont 3 mètres 50. Ça crée de problèmes. Ils vont élargir nos routes. Vous allez voir qu'il n'y a que la nationale numéro 1 qui a des tronçons asphaltés. Les restes des routes ici, ce sont des routes en délabrement très avancées. Si vous prenez seulement la route Kasenga ici, c'est juste au niveau de Kasomeno. Et après là, quand vous allez vers Kilwa, vers Kasenga, Kundelung, là, les rapports qui viennent de ces entités-là, les causes des accidents, ce sont les mauvais états de la route. Le troisième facteur, c'est les véhicules. Parce que notre système aussi de contrôle technique n'est pas bon. Vous allez voir que tous ces véhicules qui ont des certificats de contrôle technique ne sont pas passés dans des centres d'expertise de contrôle technique. On leur vend les certificats, mais les véhicules ne passent pas au contrôle technique. Et vous allez voir aussi, dans des accidents, des causes des accidents, surtout du côté Kasumbalesa, vous allez comprendre que ce sont les pannes techniques des véhicules. Quand vous êtes sur la route Kasumbalesa, ici, Lumbashi ou bien Likasi, vous allez trouver que ce sont des pannes techniques qui sont à la base aussi des accidents de circulation.
Lia Balimouacha, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'était notre invité, le chargé de la technique de la Commission nationale des préventions routières dans les Haut-Katanga, Lia Balimouacha, s'entretenait à Lubumbashi avec Jean Gandou. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.